Bonsoir. Désignation du futur président de la Commission électorale nationale indépendante. Le consensus n'a toujours pas été trouvé entre les 8 confessions religieuses après un nouvel ultimatum de l'Assemblée nationale qui a expiré lundi 4 octobre dernier. Elles n'ont pas siégé lundi faute de compromis. Selon le pasteur Eric Senga, porte-parole de l'Église du Christ au Congo, celle-ci et la SENCO ont évolué en demandant aux 6 autres confessions religieuses de proposer à notre candidat la succession de Corneille Nangaa à la Commission électorale nationale indépendante. Un rapport sera incessamment remis au bureau de l'Assemblée nationale par le présidium de la plateforme Confession religieuse pour constater l'échec des négociations, a affirmé Eric Senga. Pour leur part, les 6 autres confessions religieuses demandent au président de l'Assemblée nationale de considérer leur rapport désignant Denis Kadima à la tête de la CENI. Elle demande aussi au président de l'Assemblée nationale de mettre fin à la mission confiée au chef d'église sur la désignation du futur président de la CENI. Quelle analyse faire du blocage sur la désignation du futur président de la CENI? Que faut-il pour débloquer cette situation? Nous en parlons ce soir avec Dieudonné Mirimo, expert électoral. Il est secrétaire général de l'école des formations électorales en Afrique centrale, l'unique centre d'excellence de la CEAC, composante civile pour la bonne gouvernance. Il est également ancien rapporteur de la Commission électorale indépendante, CEI en sigle. Dieudonné Mirimo, bonsoir.
Bonsoir.
Alain Lomanja qui va nous rejoindre dans un tout petit moment. Lui, il est analyste des questions électorales. Et le professeur Alphonse Maindo, docteur en sciences politiques de l'Université de Sorbonne Paris 1 et enseignant à l'Université de Kisangani. Professeur Alphonse Maindo, bonsoir.
Bonsoir, madame.
Vous êtes très nombreux à réagir au thème de ce soir. C'est le cas de Patrick Kiazadi depuis Lubumbashi dans le Haut-Katanga. De tous les 3 cycles électoraux organisés jusqu'à en RDC, la désignation du président de la CENI par la plateforme confession religieuse n'a jamais fait objet de consensus. Pas étonnant de les voir parler un langage de sourds pour ce nouvel exercice auquel ils se sont livrés une fois de plus. Pour ma part, je ne vois pas en eux le souci de faciliter l'organisation des élections dans le délai constitutionnel, ce qui conduira au dialogue et partage de pouvoir à la fin du mandat en cours, un cycle perpétuel infernal au mépris de la misère de la population et de leurs fidèles. Robert Bahom et Aboukia Vosutkivu, je ne pense pas qu'à l'allure où vont les choses, l'on puisse trouver un compromis entre les chefs religieux quant à la désignation du futur président de la CENI en remplacement de M. Corneille Nangaa. Déjà, l'Assemblée nationale n'en est pas capable pour ne pas continuer à perdre inutilement le temps et les moyens et ainsi sortir de l'impasse. Il serait mieux que le président de la République, en tant que garant du bon fonctionnement des institutions du pays, s'y penche sérieusement. À Kinshasa, vous nous suivez sur la 103.5 et pour vous qui êtes à l'étranger, merci de nous rejoindre sur www.radiocapi.net ou sur Canal Plus, Channel 572. Bienvenue à tous dans votre magazine.
Vous pouvez continuer à envoyer vos réactions en appelant au 081 890 66 78 ou nous écrire par SMS au 081 051 57 78. Et par mail, écrivez-nous à tech@radiocapi.net.
CENI, toujours pas de consensus trouvé entre les 8 confessions religieuses qui n'ont pas siégé lundi 4 octobre, faute de compromis. Selon le pasteur Eric Senga, porte-parole de l'ECC, avec la SENCO, les 2 confessions ont évolué en demandant aux 6 autres de proposer un autre candidat à la succession de Corneille Nangaa à la CENI. Mais les 6 autres ont maintenu leur position d'avant, affirmant que le travail était déjà fait et qu'il suffisait pour l'ECC et la SENCO d'y adhérer. Ainsi, un rapport sera incessamment remis au bureau de l'Assemblée nationale par le présidium de la plateforme confession religieuse pour constater l'échec des négociations. Pasteur Eric Senga revient ici sur les points de blocage et se montre rassurant en comptant sur la bonne volonté des autres confessions. Il est au micro de Jeff Ngoy.
Disons que ce qui a bloqué dans ces travaux, c'est les conflits d'interprétation de la correspondance du président de l'Assemblée nationale. Parce que de notre côté, donc le présidium SCC-SENCO, nous avions pensé que cette convocation était de nature à nous permettre de revenir dans des discussions conformément à l'article 12, le point 5 de la loi organique portant organisation et fonctionnement de la CENI. Donc, en notre sens, il était question de rester dans les termes de la loi, c'est-à-dire trouver de nouvelles possibilités dans le respect de la même procédure. Par ailleurs, nos confrères ont estimé plutôt que les travaux étaient déjà bien faits, les PV étaient déposés et nous n'avions que à nous inscrire dans leur démarche. Ce qui ne pouvait pas aller parce que nous n'avons jamais pris part aux travaux qui ont sanctionné ces PV. Nous n'avons jamais participé à ces discussions tant que ces documents qu'on qualifie des PV a été élaboré en dehors de notre cadre légal, en dehors de notre plateforme. C'est un document qui, à notre sens, viole fondamentalement les articles 8, 16, 17 et 18 de notre charte, mais aussi et surtout les articles 10 et 12 de la loi sur la CENI.
Selon le tweet de l'évêque Dodo Kamba, président des églises des réveils, relayé par plusieurs médias, la charte qui régit les confessions religieuses ne dit pas que c'est le président qui va déposer les PV au bureau de l'Assemblée nationale. Toutefois, il dit rester ouvert à toute négociation avec la CENCO et l'ECC. Après cet échec constaté dans les négociations entre les confessions religieuses, comment sortir du blocage? Tentative de réponse avec vous, Jeff Ngoy.
Rappelons que la charte qui régit la plateforme confession religieuse fixe les règles du jeu. Elle prévoit le consensus pour toute décision, à défaut renvoie au vote transparent. Et c'est ce vote auquel s'en tiennent 6 confessions religieuses contre le consensus prôné par la CENCO et l'ECC, présidium de la plateforme. Selon certains constitutionnalistes, il revient à l'Assemblée nationale de trancher en interrogeant la même charte. Elle devra confronter les procès-verbaux en sa possession ou le seul qu'elle aura reçu des 6 confession religieuse ayant procédé au vote sans la participation des 2 autres. Mais déjà, on ira aux élections de 2023 sur base d'une contestation de celui qui est appelé à présider la centrale électorale. Le dernier mot reviendra au président de la République, soit d'entériner la décision de l'Assemblée nationale par une ordonnance d'investiture, soit de rejeter carrément, comme ce fut le cas pour Ronsard Malonda.
Merci Jeff Ngoy pour ces éléments de réponse. Dieudonné Mirimo, vous êtes expert électoral et secrétaire général de l'École des formations électorales en Afrique centrale, l'unique centre d'excellence de la CEAC, composante civile pour la bonne gouvernance. Vous êtes également ancien rapporteur de la commission électorale indépendante CEI en sigle. Quelle analyse vous faites du blocage sur la désignation du futur président de la CENI?
Merci beaucoup pour m'avoir invité à cette émission pour éclairer l'opinion en rapport avec la question de l'heure relative à la désignation de membres de la commission électorale indépendante par la sous-composante confession religieuse qui est en charge conformément à la loi organique qui a été récemment promulgué par le chef de l'État, de désigner le président de la CENI ainsi qu'un membre à la plénière. Nous avons observé que depuis qu'ils ont commencé cet exercice, ils n'ont pas pu trouver un consensus et pourtant ils ont une charte sur les registres. À mon humble avis, nous ne pouvons que demander que chacune des confessions religieuses mettre de l'eau dans son vin pour que on applique les dispositions de la charte qui sont, à mon avis, très claires. Parce que, comme l'a dit votre confrère, il a rappelé les dispositions de l'article 17 de la charte qui régit les confessions religieuses sur le mode de décision. Il s'agit du consensus, de bonne foi, qui fait partie même des valeurs que ces confessions religieuses prônent dans leur propre charte, et du vote transparent. Donc, si on n'arrive pas à trouver un consensus de bonne foi, et si on n'arrive pas à opérer un vote transparent, ça pose problème, parce que l'opinion attend qu'on puisse désigner les membres de la commission électorale indépendante qui vont conduire le prochain cycle électoral. Et donc, ils doivent mettre toutes les parties prenantes en confiance. C'est eux qui sont les arbitres des scrutins. Voilà pourquoi ils ont cette lourde responsabilité de pouvoir regarder dans la même direction pour donner au pays, en tout cas les dirigeants qu'il faut pour organiser, gérer le processus électoral pour le prochain cycle électoral.
Dieudonné Mirimo, parmi les 8 confessions religieuses, 6 ont choisi Denis Kadima comme futur président de la CENI et ceux-ci ne veulent pas revenir sur leur choix. De leur côté, les églises catholiques et protestantes majoritaires, il faut le dire, en RDC, refusent de placer à la tête de la commission électorale un proche, disent-ils, du président Félix Tshisekedi, redoutant que les résultats de la future élection présidentielle soient manipulés.
C'est ce que nous avons constaté. Comme j'étais en train de le dire tout à l'heure, ils ont la charte qui les régit. Et j'ai lu dans cette charte, comme je venais de le répéter encore une fois, que le vote doit être transparent. La question qu'on doit se poser, le vote qui a eu lieu, a-t-il été transparent? Si oui, on va en tirer les conséquences. Deuxième question, la transmission du rapport. Parce que dans la charte, j'ai lu aussi à l'article 18, que c'est le président de la plateforme des confessions religieuses qui engage celle-ci vis-à-vis des tiers. Ça signifie que c'est le président de cette plateforme qui doit transmettre le PV à l'issue duquel ils ont désigné leur délégué. Et c'est ça, ça s'est passé dans ces conditions-là. On devra aussi en tirer les conséquences, à mon humble avis. Dans tous les cas, ils ont la lourde responsabilité de pouvoir se conformer et à leur charte et à la loi organique sur la CENI.
Chaque camp campe sur sa décision. Dieudonné Mirimo, toutes les rencontres pour trouver un compromis ont échoué, ce qui va retarder les élections. Est-ce qu'il y aurait un moyen de régler autrement ce blocage?
La loi organique portant organisation et fonctionnement de la commission électorale indépendante, à son article 10, a désigné formellement les composantes qui doivent désigner les animateurs de la CENI. Il s'agit de la majorité, de l'opposition, de la société civile avec ses sous-composantes. C'est la loi et n'est pas modifiée à ce jour. Et on ne peut pas opérer en dehors de ce que dit la loi. Et donc, s'il y a une autre possibilité, c'est en restant dans la loi, ça signifie demander à toutes les autres institutions qui sont impliquées de pouvoir participer à détendre l'atmosphère au sein des confessions religieuses pour qu'ils puissent désigner leurs délégués conformément et à leur charte et à la loi organique sur la CENI.
Les autres composantes estiment que le président de la Commission électorale nationale indépendante est la pièce maîtresse dans la crédibilisation et l'indépendance de la CENI. Tant que ce dernier ne sera pas désigné, il sera difficile pour eux aussi de proposer leurs membres ou candidats à la CENI.
C'est vrai, c'est leur manière de lire la situation qui se présente actuellement. Mais moi, je voudrais indiquer ici que le président de la CENI, c'est lui, effectivement, qui engage l'institution aussi vis-à-vis des tiers. Mais la loi organique sur la CENI précise que les décisions au sein de la CENI se prennent par consensus. Donc, ce sont les 15 membres de la CENI qui décident, ou alors par voie de vote. Donc, le président seul ne peut pas décider pour engager la CENI. Ce sont les 15 membres, au regard de la nouvelle configuration actuelle, qui doivent engager la CENI par vote ou par consensus. Donc, je veux bien que les gens puissent avoir une fiction sur la personne du président de la Commission électorale indépendante, parce que c'est aussi l'image, c'est lui qui doit donner la confiance à toutes les parties prenantes, mais nous n'oublions pas qu'il n'agit pas seul. Il va travailler avec les 15 autres membres pour prendre en charge le processus électoral.
Professeur Alphonse Maindo, docteur en sciences politiques de l'Université de Sorbonne, Paris 1, et enseignant à l'Université de Kisangani. Professeur Maindo, votre lecture sur ce blocage qui ne permet pas aux confessions religieuses de désigner le futur président de la CENI.
Oui, merci beaucoup, madame. Je salue d'abord mon co-débatteur. Pour moi, si cette situation de blocage est tout à fait consubstantielle à deux mots que je considère comme congénitaux de la CENI. La CENI, qui a été pensée d'abord comme une institution dans la Constitution, s'est pensée comme une institution citoyenne d'appui à la démocratie, et donc appelée à être impartiale, indépendante, pour qu'on puisse véritablement asseoir la démocratie dans ce pays en organisant des élections transparentes et libres qui permettent exactement au peuple d'exercer sa souveraineté et d'exprimer ses opinions sans entrave. Alors, mais quels sont ces deux mots? Ces deux mots qui me semblent congénitaux de la CENI, sont donc consécutifs à la pratique qui a été mise en place. C'est d'abord la volonté de contrôler la CENI et de l'instrumentaliser par tous les régimes. Depuis qu'on a commencé, on a mis la CI pour la CENI, tous les régimes qui se succèdent ont toujours la même volonté affichée, et ils ne s'en cachent pas, de contrôler la CENI, de s'assurer le contrôle de cette institution pour s'assurer une victoire électorale. C'est dans le même contexte d'ailleurs qu'ils contrôlent, ils cherchent toujours à contrôler la Cour constitutionnelle, qui est aussi une instance majeure dans ces jeux électoraux. Et deuxièmement, deuxième mal congénital, c'est le fait d'avoir mis au niveau de confessions religieuses sur un même pied d'égalité, autour d'une même table, des institutions qui n'ont pas le même poids politique en termes d'implantation territoriale, en termes d'importance numérique, en termes de capacité de résistance à des menaces, à des intimidations, mais aussi en termes tout simplement de service à la communauté nationale. Et donc, mettre sur le même pied d'égalité la CENCO et l'ECC avec des églises dont certaines ne représentent qu'elles-mêmes, si vous voulez, peut-être les chefs avec quelques membres qui sont à Kinshasa ou dans un quartier donné, et les mettre sur le même pied d'égalité que les grandes églises, ça pose un sérieux problème. Et ce qu'on a là, on peut donc manipuler ces gens-là et on veut faire jouer la loi de la majorité en disant non, voilà, il y a une majorité. Mais c'est quelle majorité? Voyez-vous, c'est une majorité factice qui ne représente pas un vrai poids démographique et politique dans le pays. Et donc, si on va plus loin, que dit la loi par rapport à la composition de confessions religieuses qui doivent décider de la direction de la CENI? Mais on demande que ces églises, ces confessions, puissent avoir une expertise et une expérience avérée en matière électorale. Mais combien de ces églises-là ont des compétences en cette matière-là? Si on met à côté l'ECC et la CENCO. Voyez-vous, il y en a très peu, ou en tout cas pas du tout, il y en a. Il y a par exemple l'église Kimbanguis, qui a toujours affiché son apolitisme, disant que ne pas s'impliquer dans les affaires politiques. Alors, mais c'est elle qui est maintenant en pointe pour dire c'est notre candidat. Mais vous ne participez pas au processus d'éducation citoyenne, d'observation électorale et tout ça, mais vous voulez gérer l'institution électorale. Il y a là un souci. Donc, pour moi, ce blocage nous révèle, que dis-je, en fait, ça nous rappelle plutôt la vraie nature du régime politique en place. Ou, si vous voulez, c'est un régime qui est donc autocratique, qui ne recule devant rien ni personne pour conserver le pouvoir. Et donc, on oublie même d'où on vient. Il y a eu des martyrs, si vous voulez, qui ont versé leur sang pour qu'on puisse avoir les régimes qui est en place là. Souvenez-vous des combats qui ont eu lieu contre la révision constitutionnelle, contre le troisième mandat illégal. Voyez-vous, donc on reproduit les mêmes mots qu'on a reprochés au régime qu'on a combattu, qui est tombé.
Alors pour vous, donc, professeur Mahindo, c'est une situation un peu voulue par les régimes en place.
Donc pour moi, ça ne fait l'ombre d'aucun doute. Ça ne fait l'ombre d'aucun doute. Ce qu'on a vu, il y avait eu au début les huit confessions. Ils avaient signé un document pour dénoncer les intimidations, les menaces dont elles étaient victimes pour imposer un candidat. Ça n'a pas changé. Et on a vu plutôt que certains six de ces confessions ont changé de position pour s'aligner. Alors on peut s'interroger. Qu'est-ce qui s'est passé entre les deux moments? Donc on est là face à une situation qui est difficile à accepter. Donc c'est une volonté de contrôle et qui rentre dans ce que je disais tantôt, on contrôle la Cour constitutionnelle, on veut aussi contrôler les autres institutions.
Oui. Qu'est-ce qu'il faut faire dans ce cas, professeur, puisque les confessions religieuses peinent à trouver un consensus sur le choix du futur président de la CENI, chacun campe sur sa position, entre-temps, ce blocage risque d'avoir un impact sur le processus électoral. Qu'est-ce qu'il faut faire pour sortir de cette situation?
Alors, à mon avis, pour sortir de cette situation, je pense que chacun ou chacune de ces composantes de la confession religieuse devrait se poser la bonne question. Pourquoi avons-nous été mis en place dans ce cadre de confession religieuse pour prendre la présidence de la CENI? Est-ce que nous le faisons pour notre propre intérêt ou nous le faisons pour l'intérêt de la nation? Est-ce que nous faisons ça pour nous assurer qu'il y a donc une élection transparente qui se met en place? Est-ce que nous le faisons pour soutenir un régime, pour soutenir un individu ou une personne et sacrifier l'intérêt national? Si les gens répondent en âme et conscience à ces questionnements, et ils vont arriver à la conclusion qu'ils sont là pour veiller à ce qu'il y ait une élection transparente, c'est le sens même de la CENI qui a été constitutionnalisée. Donc s'ils répondent en âme et conscience à cette question, il ne devrait plus y avoir de problème. Donc ils devront revenir pour regarder, refaire partie sur une nouvelle base, vous dites voilà, quels sont les candidats que nous avons aujourd'hui là, celui-là ou ceux-là ont été contestés pour x, y raisons, trouvons d'autres candidats et qui vont faire consensus et qui vont partir. Et à mon avis, là, ça devrait aller. Mais je pense aussi que ceux qui sont en position d'influencer tel ou tel chef religieux qui se réunissent là, qui doivent trouver la président de la CENI, devraient user de leur pouvoir plutôt que de chercher à imposer coûte que coûte leur candidat, user de leur pouvoir pour dire faisons le fair play, parce que si vous travaillez bien, si vous faites, vous avez un bilan, ou si vous avez une bonne idée, vous avez une bonne cause, vous avez un bon programme, vous n'avez pas à chercher à contrôler la CENI. Ça, je l'ai dit, c'est pour toutes les tendances. Ceux qui sont au pouvoir, mais également ceux qui aspirent à ce pouvoir, qu'il s'agisse de la MUCA, ou d'Ensemble, ou de d'autres entités, de l'Union Sacrée, ou de FCC. Mais si tout le monde s'est dit, j'ai un bon programme, et je peux bien les vendre, ou j'ai un bilan, alors on n'a plus besoin de contrôler l'institution pour organiser la fraude.
Professeur Maïndo, une certaine opinion pense que comme les confessions religieuses n'arrivent pas à se mettre d'accord ou à trouver un consensus, la dernière décision revient à l'Assemblée nationale. Cette dernière devra trancher si elle doit tenir compte du PV des 6 confessions religieuses ou encore du rapport de la SENCO et l'ECC.
Oui, alors, bon, si l'on veut, ça ce serait une des solutions, des facilités à laquelle on pourrait recourir, c'est de choisir, de demander à l'Assemblée de prendre une décision par rapport à cette question. Or, on connaît la configuration de l'Assemblée actuelle, qui est donc largement acquise à l'Union Sacrée. Ça signifie que nous allons avoir une Assemblée contrôlée par l'Union Sacrée, la présidence de la République contrôlée par l'Union Sacrée, le gouvernement de l'Union Sacrée, la Cour de l'Union Sacrée, la scène de l'Union Sacrée, donc tout de l'Union Sacrée, alors c'est parti pour de bonnes élections transparentes. Et alors, les mêmes mots produisant les mêmes effets, on sait ce qui nous attend en 2023. Ce sera des contestations, et qui peuvent être des contestations violentes, et qui peuvent entraîner même à tout détruire dans ces pays. Est-ce qu'on veut vraiment avancer, ou on fait un pas en avant, 2, 3 pas en arrière? C'est la bonne question que nous devrions nous poser. Mettre l'intérêt national au-dessus de nos propres égos, de nos propres intérêts individuels.
Alain Lomanja, bonsoir, vous êtes en ligne.
Bonsoir madame, bonsoir aux invités, bonsoir à tous les auditeurs.
Vous êtes analyste des questions électorales, désignation du futur président de la Commission électorale nationale indépendante. Le consensus n'a toujours pas été trouvé entre les 8 confessions religieuses après un nouvel ultimatum de l'Assemblée nationale qui a expiré lundi 4 octobre dernier. Comment vous analysez ce blocage, vous Alain Lomanja?
Il me semble, madame, que le blocage actuel résulte d'un certain nombre de facteurs sociopolitiques et de violations des textes de loi en vigueur. Un de ces facteurs, pour moi, c'est d'abord le facteur de la corruption politique. Dans un environnement politique de grande corruption, il est difficile de garantir l'intégrité des procédures qui structurent un processus électoral. Et le pire à l'heure actuelle, c'est que cette corruption politique n'est même plus condamnée dans l'opinion publique. Si vous voulez un exemple, un jour, quand j'étais à Kinshasa, je prends un taxi et le taximen qui était en train de nous dire que l'Église catholique devait laisser le président contrôler la CENI et avoir son deuxième mandat parce que c'est son tour, les autres ont fait cela avant lui. Vous voyez comment, à quel niveau nous sommes arrivés dans les consciences citoyennes, dans la perception de la corruption politique. Donc je pense qu'il faut souligner cet élément, on ne l'évoque pas beaucoup, mais la corruption politique est un des problèmes, un des facteurs majeurs qui est en train de détruire tout le processus qui a été engagé. Le deuxième facteur de blocage, à mon avis, c'est une série de violations des textes de loi qui ont vicié la procédure. On peut d'ailleurs commencer par les confessions religieuses elles-mêmes. Elles avaient une charte, elles ont une charte qui n'est même pas conforme à l'actuelle loi organique sur la CENI. Parce que selon cette loi organique, c'est seulement les confessions religieuses et les organisations de la société civile qui ont une expérience et une expertise avérée en matière d'élection qui peuvent siéger dans la désignation des candidats membres de la CENI. Or, qu'est-ce que nous voyons ? Les personnes qui prennent la parole aujourd'hui et qui parlent au nom des confessions religieuses, au nom du groupe des six par exemple, est-ce qu'ils peuvent dire à l'opinion nationale à quel moment ils ont participé à l'éducation ? Donc, ils parlent des choses qu'ils ne connaissent pas et qu'ils ne maîtrisent pas et des choses pour lesquelles la loi ne les a même pas attitrés pour prendre position. Et ça, pour moi, ça fait partie de la confusion qui est née dans ce processus-là. Et si on regarde aussi du côté de l'Assemblée nationale, ça a été encore une série de violations de la loi organique sur la CENI. Parce qu'au lieu d'avoir une commission paritaire qui aurait dû siéger pour étudier les dossiers des candidatures, on a mis en place une commission qui ressemble à une commission de l'Union sacrée et qui, curieusement, a même proposé à l'Assemblée nationale d'entériner un PV dont nous connaissons les circonstances d'élaboration et qui était en parfaite violation de la charte des confessions religieuses. Vous vous rappelez, madame, que les confessions religieuses qui soutiennent le candidat qui pose problème aujourd'hui ont quitté les sièges de leur plateforme. Elles ont convoqué une réunion à un autre endroit sans que cela passe par le président ou le vice-président de leur plateforme. Elles ont signé un PV qui n'a pas été signé par les personnes attitrées et c'est ce PV-là que la commission dite paritaire de l'Assemblée nationale a proposé à l'entérinement par l'Assemblée nationale. Vous voyez comment on est en train de fonctionner en marge des textes des lois et on voudrait quand même que le processus électoral soit crédible et transparent, même si on viole toutes ces lois-là.
Donc, Alain Lomanja, pourquoi vous parlez des commissions de l'Union sacrée alors que dans cette commission, selon ceux qui ont siégé, il n'y avait pas que les députés de l'Union sacrée, on a retrouvé aussi certains députés de l'opposition.
Moi, je n'ai pas vu la liste des membres de la commission, mais j'ai entendu les plateformes réagir. Et on sait que l'opposition, à l'heure actuelle, est constituée du FCC et de la MOUCA. Nous avons vu un communiqué du FCC qui disait qu'il n'était pas partie prenante à cette commission-là et qu'il n'avait pas participé aux travaux de la commission. On ne peut même pas dire que les députés de la MOUCA ont participé à cette commission-là. Donc, vous voyez,
alors,
on les déclarations de ces deux regroupements politiques-là, on ne peut pas dire que l'opposition a participé à la commission paritaire. Mais bien sûr, il peut y avoir des députés sans camp ou qui ont été débauchés et qui ont pris part aux travaux de la commission. Mais est-ce que ça en fait une commission paritaire?
Alors, tout à l'heure, vous avez parlé de violation des textes et lois en vigueur. En commençant par les confessions religieuses elles-mêmes, il faudrait tenir compte uniquement des confessions religieuses qui ont une certaine expérience en matière électorale. Si on avait tenu compte de cela, on ne serait pas buté à cette difficulté aujourd'hui.
Je ne pourrais pas peut-être le dire directement comme ça, mais à mon avis, ça aurait diminué la possibilité de corruption politique. politique et on aurait peut-être eu des acteurs sur la table, autour de la table, des acteurs qui maîtrisent les enjeux d'un processus électoral, qui ont mené des observations électorales, qui ont des conclusions de leur mission d'observation électorale et qui connaissent les vrais problèmes de nos processus électoraux et qui sont capables et prêts à y apporter des réponses. Or, quand vous avez quelqu'un qui ne sait même pas les problèmes qui se sont posés au cours d'un processus électoral et qui arrive là, qui vous présente un messie en vous disant que il n'y a que ce messie-là qui peut, qui mérite d'être à la tête de la CENI. La difficulté pour moi, c'est sur base de quoi il dit cela, sur base d'une expérience, sur base de sa connaissance des problèmes des processus électoraux ou bien sur base des cadeaux qu'il aurait reçus.
Merci Alain Lomandja. On vous garde encore dans cette émission le temps pour nous de prendre ces auditeurs qui nous appellent sur notre standard. On va commencer par cet auditeur qui nous appelle depuis Mbujimayi dans la province du Kassa Oriental. Pour vous, Dieudonné Mirimo.
C'est Lionel Nathan Kassama. J'appelle depuis Mbujimayi au Kassa Oriental. À mon avis, nos représentants qui sont délégués par les différentes confessions religieuses ont montré leurs limites. Suite à ce climat de méfiance, moi, je suggère qu'ils soient représentés, si possibilité il y a, que les confessions religieuses, les 8 dans leur ensemble, puissent de nouveau mandater d'autres personnes qui peuvent continuer avec les discussions dans un climat de confiance pour trouver un consensus. Ça sera vraiment un bon résultat parce que ceux-là qui sont là, ils ont démontré leurs limites et ceci ne va pas nous donner l'occasion d'organiser les élections dans les délais.
Dieudonné Mirimo.
J'ai bien suivi l'intervention de mon frère Kacham à partir de Mbujimayi. Je souhaite qu'on puisse mandater d'autres personnes de ces confessions religieuses afin de pouvoir définir le délégué de confession religieuse à la CENI. Mais je voudrais lui rappeler que, tout en saluant en passant mes co-débatteurs, le professeur Mahindo et Alain Lomandja, que la loi portant organisation et fonctionnement de la commission électorale est claire. La charte aussi elle-même est claire. Chaque confession religieuse a la personne qui l'engage. Donc, on ne peut pas se réveiller matin pour dire non, comme tel ne plaît pas à X, on le change pour prendre Y et aller représenter la confession religieuse. Ça ne se passe pas comme ça. Mon frère Alain a martelé sur le respect des textes et c'est devenu comme congénital. Si nous ne respectons pas nos textes, en tout cas, nous ne pouvons jamais avancer. Et donc, je voudrais rappeler à mon frère Kachama que les textes sont là. Nous devons pousser, aider à tout le monde de respecter et de faire respecter les textes qui régissent et les confessions religieuses et les différentes organisations.
Professeur Mahindo, on va prendre aussi pour vous cette réaction qui nous vient de Kisangani.
Franck Bilal, depuis Kisangani, on a dit si la RDC était un pays sérieux qui respecte les textes du pays, on allait confier la charge d'organiser des élections au ministère de l'Intérieur comme cela s'est fait dans d'autres. Le mal en est que chaque régime, à peine d'atteindre le pouvoir, veut d'abord avoir toutes les résolutions sous son appui. Avec tel allure, notre pays évoluera toujours en date de si nous ne parvenons pas à changer nos comportements. Pour débloquer cette situation, j'invite l'Assemblée nationale de voir la procédure de la désignation du président de la CENI est conforme au règlement d'ordre intérieur, celle-ci valide. Au cas contraire, elle doit simplement l'annuler.
Vous allez nous excuser pour la qualité de la ligne téléphonique de notre auditeur qui nous a appelé de Kisangani. Professeur, vous avez suivi Franck qui vient de nous appeler depuis Kisangani, qui pense que si on était dans un état sérieux, l'organisation des élections serait confiée au ministère de l'Intérieur.
Oui, effectivement, je crois que ça doit être probablement quelqu'un qui a fait science politique ou quoi, qui a dit ça. Mais enfin, c'est exactement ce qui se passe dans tous les grands États démocratiques. Quand vous allez aux États-Unis, en France ou en Belgique, tout ça, c'est le ministère de l'Intérieur qui a ça dans ses fonctions régaliennes d'organiser les élections. Il n'y a pas d'institution d'appui à la démocratie pour organiser les élections. Mais cela, c'est une spécificité des pays qu'on dit être des pays en transition ou des pays qui sont post-conflit ou des pays qui veulent aller vers la démocratie, qui sont en train de faire la démocratisation. Parce qu'on se méfie de ceux qui sont au pouvoir puisqu'ils ont tendance à organiser les élections pour les tricher. Alors, ce qui est le cas de notre pays, hein, et quand vous lisez les préambules de notre constitution de 2006, ça rappelle bien ça, les différentes crises qu'on a connues et qui ont entraîné, qui ont comme pour fondement la contestation de la légitimité des institutions et de leurs animateurs. Et donc, c'est pour contrer cette difficulté-là qu'il fallait permettre au peuple congolais d'exprimer librement ses opinions pour avoir des institutions et des animateurs qui soient légitimes, c'est-à-dire acceptés par la population. Alors, pour y arriver, nous constituons une institution autonome et qui ne dépend pas, qui est impartiale, qui ne dépend pas du pouvoir en place. Malheureusement, en mettant en place cette institution, les différentes dispositions qui ont été mises en place ne sont pas toujours respectées parce que la nature même de régime, je l'ai évoqué tantôt, que nous avons ici des régimes autocratiques, des régimes autoritaires et qui ont tendance à rester en place indéfiniment, qui s'émancipent des règles. Mon collègue Lomang l'a rappelé ici, on viole tout à tous les instants. Et donc c'est ce qui fait qu'on a besoin de cette institution. Maintenant, pour s'en sortir, comme lui, il propose que pour sortir de cette crise, il faut qu'on regarde les PV qui a été soumis là-bas pour regarder si ça remplit les conditions ou pas. Mais il ne faut même pas regarder les PV des institutions, disons des 6 confessions, parce que ces PV-là est déjà en violation de dispositions légales. Donc il faut carrément mettre ça de côté. Ce qu'on peut regarder, c'est la correspondance qui est soumise par la présidence ou la vice-présidente de l'institution confession religieuse. Sur cette base-là, on peut décider de ce qu'il convient de faire. Est-ce que l'Assemblée va se situer parce qu'il y a défaut de consensus ou va dire, voilà, on passe outre, alors on va appliquer ce que dit la loi organique. La loi organique dit quoi? Ce sont les confessions qui ont une compétence et une expérience avérée en matière électorale qui vont participer à la désignation du président de la CENI. Alors on pourrait, si on applique ça, on applique l'esprit et la lettre de cette disposition, on demanderait alors aux églises qui sont connues, ce serait la CENCO, ce serait les CC qui choisiraient librement et on marginaliserait donc les autres là, les Kimbanguistes, c'est pas moi, les autres, toutes les autres églises là.
Alain Lomandja, on a aussi une réaction pour vous qui nous vient de Lubumbashi dans la province du Haut-Katanga.
Sébastien Kenga, je vous appelle depuis la province du Haut-Katanga, précisément dans la ville de Lubumbashi. La lyre qui prend la désignation du président de la CENI va finir sa course dans le désordre qui va amener le pays dans la situation comme celle de 2016. L'espoir mis par les opposants d'hier à ces mêmes confessions religieuses est la conséquence que subissent aujourd'hui certaines institutions du pays. Dans presque certains pays du monde, ce ne sont pas les confessions religieuses qui choisissent ou qui dictent la vie politique comme c'est le cas dans notre pays. Et ce n'est pas pour la première fois que ces mêmes confessions religieuses se retrouvent pour choisir les dirigeants de la centrale électorale. Et dans presque tous les cas, les résultats ont été toujours décevants. On court derrière le temps. On ne veut pas que les confessions religieuses deviennent le piédestal pour un éventuel glissement qui s'annonce. Et si la loi autorise une autre alternative au cas où le consensus n'est pas trouvé, c'est le bon moment pour sauver le pays dans le chaos.
Alain Lomandja, brève réaction.
Oui, je peux comprendre la réaction de l'auditeur et me dire qu'en réalité, il y a des confessions religieuses qui font partie du problème alors qu'on attendait d'elles qu'elles soient la solution au problème. Mais je crois que son analyse est assez limitée parce que j'entends souvent des gens accuser les confessions religieuses. Oui, quelqu'un qui est corrompu, il fait partie du problème. Mais le problème, comme le professeur Maïndo l'a souligné, c'est la volonté politique du contrôle de cette institution qu'on appelle CENI. Tant qu'il y aura des politiciens de l'opposition ou du pouvoir qui voudront, chaque fois qu'ils en ont la possibilité et les moyens institutionnels et légaux, contrôler la CENI, on aura toujours des problèmes. Peu importe les composantes qu'ils vont désigner, ça sera toujours problématique. Parce que la CENI est devenue un enjeu de conquête et de conservation du pouvoir et non plus un organe de gestion des élections.
Alain Omandja, nous sommes presque à la fin de l'émission. Comment débloquer cette situation?
Alors, je vais faire quelques propositions rapides. C'est vrai qu'il ne faut pas donner des solutions simples aux problèmes qui sont complexes, mais quand on connaît les causes des problèmes complexes, on peut trouver aussi des solutions qui soient aussi simples. Pour moi, la première fausse solution serait de dire que l'Assemblée trouve la solution. Elle n'a aucune prérogative légale dans ce sens-là et tout ce qu'elle pourra faire ne sera qu'un accommodement en dehors de la loi. Ce qu'il faut faire, premièrement, et ce n'est que ça, à mon sens, c'est de demander aux politiciens qui sont derrière les six confessions religieuses-là de retirer eux-mêmes le soutien aux candidats qui posent problème et qui est contesté, parce que ça risque même de tourner à leur propre désavantage. Comme ça, ça va débloquer ces confessions religieuses et elles pourront désigner un autre candidat qui ne soit pas celui sur qui pèsent des soupçons de corruption. Si on ne passe pas par cette voie-là, alors il faut revenir au texte de la loi et laisser uniquement les confessions religieuses qui ont une expérience en matière électorale de désigner les candidats présidents de la CENI. Ou, à la limite alors, on révise la loi organique sur la CENI et on trouve un autre mécanisme de désignation du président de la CENI et qui n'implique pas les confessions religieuses. Mais là, on ne fait que reculer le problème au lieu de les résoudre.
Merci Alain Lomandja, la liste des questions électorales. On va considérer cela comme votre conclusion. Dieudonné Mirimo, expert électoral, secrétaire général de l'école des formations électorales en Afrique centrale. C'est l'unique centre d'excellence de la CEAC, composante civile pour la bonne gouvernance. Vous êtes également ancien rapporteur de la commission électorale indépendante, CI en sigle. Est-ce possible dans le contexte congolais d'avoir un président de la CENI consensuel qui va rassurer toutes les parties prenantes?
Il est possible d'avoir un président de la CENI qui va rassurer tout le monde. Je l'ai dit au début que la CENI, c'est l'arbitre des élections, donc il doit rassurer toutes les parties prenantes. Et pour cela, il faut que donc les politiques qui tirent les ficelles puissent laisser main libre aux confessions religieuses de désigner leurs délégués conformément aux critères qui sont définis à l'article 12 de la loi organique sur la CENI. Si on les laisse librement le faire, en tout cas, ils pourront trouver un consensus ou tout au moins organiser un vote transparent pour désigner les deux délégués qui vont représenter les confessions religieuses à la Commission électorale nationale.
Merci Dieudonné Mirimo, professeur Alphonse Maïndo, docteur en sciences politiques de l'Université de Sorbonne, Paris 1 et enseignant à l'Université de Kisangani. Votre conclusion, professeur, vous pensez que cette situation trouvera une solution?
Oui, je pense qu'il y aura une solution. Et je pense que la solution peut provenir de tous les amis du Congo et de nos forces politiques. Si les puissances qui ont tendance à s'ingérer dans les affaires congolaises et qui pèsent décidaient de mettre la pression sur ceux qui bloquent les mécanismes, je crois qu'on pourrait arriver à une solution. Mais ça va être une solution de passage. Mais je pense qu'il faudrait que l'Assemblée nationale, comme je l'ai dit tantôt et comme l'a repris mon collègue Lomandja, il faudrait que l'on puisse revenir à la loi elle-même, la loi organique qui dit que s'il n'y a que les institutions qui ont les confessions religieuses, qui ont l'expérience et l'expertise avérée en matière électorale, qui peuvent participer à la désignation du président de la CENI. Et si on applique ça, la solution va être trouvée rapidement. On va éliminer bon nombre de ces confessions qui sont là et qui n'ont jamais fait ce genre d'exercice.
Merci, professeur. Dialogue entre Congolais, c'est fini pour ce soir. Merci à Guy Maté, Donna Madimba, Michel Outeté qui m'ont aidé à préparer cette émission sous la supervision de Martin Seboujangwe. La mise en onde était assurée par Alain Goy. Présentation et coordination, Kenin Kouté. Vous pouvez retrouver cette émission sur notre site internet www.radiocapi.net. Mon suite de programme sur la fréquence de la paix.